Une semaine sportmédable avec Canal+. Toujours plus de sport, toujours plus d'action, toujours plus d'émotions avec les offres Canal+.
Et bonsoir, soyez les bienvenus pour ce nouveau numéro d'une semaine sportmédable. Nos invités ce soir, Eric Figuère, Pierre Forest, Grégory Sirg et Ricardo Baroni. Messieurs, bonsoir.
Bonsoir à tous.
Et merci d'être avec nous. On va commencer par le rugby. Ça a été l'un des événements de ce week-end. La dernière journée de la phase de poule de championnat du top 14. Allez, on va d'abord rappeler les résultats avec Bayonne qui s'est imposé 52-7 sur Perpignan. Castres qui a battu Toulon 38-21, Montpellier qui est allé l'emporter 28-25 sur la pelouse de Lyon, victoire du Racing 92-31-20 sur le stade toulousain. Pau s'est imposé 71-35 sur Montauban. La Rochelle a battu le Stade Français 27-22, puis Clermont, et ça a de l'importance au classement général, s'est imposé 34-31 sur la pelouse de Bordeaux-Bègles. Au classement, sont qualifiés pour les phases finales Toulouse et Montpellier, mais ça s'était fait depuis un petit moment. Et puis qualifié également le Stade Français pour le Racing 92 et La Rochelle. Pierre Forest, l'info quand même de ce week-end, c'est que l'UBB, l'Union Bordeaux-Bègles, l'équipe championne d'Europe en titre, double championne d'Europe en titre, ne jouera pas la phase finale du championnat.
Oui, bien sûr. On le pressentait un petit peu. Alors d'abord, je vais peut-être vous reprendre, si vous me le permettez.
Mais vous me reprenez.
La deuxième place qualificative pour la demi-finale directe était encore en jeu entre Montpellier et le Stade Français, qui était à égalité à l'issue de la 25e journée. Et à cette dernière journée, le Stade Français se déplaçait
à La Rochelle.
Et on va en parler après de La Rochelle. Donc a perdu à La Rochelle. Et par contre, Montpellier se déplaçait à Lyon, au Loup, qui n'avait plus rien à jouer, et donc qui a gagné à Lyon. Donc cette deuxième place qui attribue la demi-finale directe sans passer par l'écart est attribuée donc à Montpellier, qui a fait une très très belle saison, qu'on n'attendait pas à ce niveau-là, qui a démarré très très doucement, on va dire ça comme ça, et puis au fur et à mesure s'est retrouvé. Donc deux demi-finalistes connus, Toulouse, qu'on le savait déjà, et Montpellier. Et puis y avait la bagarre, la lutte pour la... pour être qualifié.
Pour être dans les six premiers.
Voilà. Et donc, il y avait quatre équipes qui étaient concernées, puisqu'ils étaient très, très près, très proches les unes des autres. Donc, on va commencer par le Racing. Il y avait le Racing, La Rochelle, Clermont et l'UBB. Et donc, dans le classement à l'issue de la 25e journée, l'UBB était encore en sixième position, était qualifié. Et donc, recevait pour la dernière journée Clermont. Malheureusement, ils sont tombés sur une équipe de Clermont qui venait de perdre à domicile contre le Racing. Et donc, et Clermont a joué sa chance jusqu'au bout. Malheureusement, ça ne servait à rien parce qu'ils ont gagné à l'UBB à Bordeaux, ce qui n'est pas courant. Et malheureusement, ils ne sont pas qualifiés. Donc, l'équipe la plus régulière et qui se qualifie, qu'on le voit, c'est le Racing. Parce que le Racing est allé à l'avant-dernière journée, est allé gagner à Clermont et ensuite a gagné contre Toulouse, le leader de ce top 14. Donc, en fait, on voit que sur les deux dernières journées, ça fait des dégâts. Ça fait des dégâts pour l'UBB, puisqu'on se souvient que l'UBB a la championne d'Europe, couronnée de titre de championne d'Europe il y a trois week-ends de ça. Et le week-end d'après qui a suivi, ils sont allés jouer à Toulon, qui n'avait plus rien à jouer. Et ils ont envoyé l'équipe dite réserve un peu. Pourquoi ? Parce qu'ils ont fêté le titre de champion d'Europe. Double champion d'Europe, ça se fête. Ils l'ont fêté pendant deux ou trois jours.
Ouais, et puis, ils auraient peut-être dû le fêter que j'ai réussi la journée.
On peut dire ça comme ça, mais ce n'est pas évident non plus. On dit qu'ils sont absents aux phases finales. Parce qu'on ne sait pas s'ils seraient allés jusqu'au bout, il y a encore des incertitudes, mais au moins, ils ont un titre cette année, parmi tous les clubs qui se présentent pour gagner le bouclier, au moins ils ont déjà un titre. L'année dernière, ils étaient finalistes, c'est vrai, ils sont tombés sur Toulouse, donc c'est dommage. Alors il y a peut-être un seul entraîneur qui est très très content, que l'UBB, façon de plaisanter, c'est l'entraîneur de l'équipe de France, parce que vous le savez. Entre la finale qui était prévue au mois de juin, fin juin, et le premier test, je crois c'est le 5 juillet, contre la Nouvelle-Zélande. Les finalistes de ce top 14 ne pouvaient pas se rendre en Nouvelle-Zélande pour ce premier test. Ils pourraient éventuellement prétendre au deuxième test une semaine après en Australie, puisque la nouvelle Coupe des Nations. Donc voilà, on peut dire que Galtier, il se réjouit, façon de parler, qu'il puisse compter sur les Bordelais, malheureusement, qui sont éliminés pour eux. Donc voilà. Mais c'est la surprise.
Grégory, vous me faisiez remarquer tout à l'heure qu'il y avait une seule équipe parmi les six qualifiés qui était déjà là l'an dernier. C'est bien sûr votre équipe de cœur, le Stade Toulousain, qui termine en tête et vraiment en roue libre ce championnat. Qu'est-ce que vous retenez de cette première partie de la saison, de cette phase de poule, j'allais dire ?
Si on parle du cas spécifique du Stade Toulousain, ils ont fait des matchs avec des scores fleuves où ils ont complètement écrasé et asphyxié leurs adversaires. Et à côté, ils sont passés eux-mêmes dans des trous d'air totalement incompréhensibles. Donc la saison, malgré l'avance au championnat, qui était beaucoup plus confortable avant les dernières journées, elle reflète pas totalement la régularité sur la saison non plus. Alors pas forcément d'un point de vue mathématique, puisqu'ils sont devant, mais plus d'un point de vue dans le jeu. Hugo Mola a eu beaucoup de turnover à faire aussi avec les nombreuses blessures, donc ça a été une saison assez longue. Après, sur l'enseignement, malgré la longueur du championnat, on voit que les équipes qui se qualifiaient, qui étaient un peu moins attendues, c'est surtout qu'elles étaient sur une grosse dynamique au cours des 8-10 dernières journées. Il y a le Racing et la Rochelle, si je dis pas de bêtises, ils ont gagné quasiment tous leurs matchs au cours des dernières semaines, et ce qui fait qu'au classement, tout de suite, ils s'envolent. Et ça permet de se qualifier à la fin, puisque la particularité du top 14, c'est que c'est pas forcément le club qui finit en premier qui est champion. Donc l'objectif, c'est quasiment de se qualifier juste pour les phases finales, et après de jouer les matchs les uns.
Oui, parce que là, c'est vraiment une autre compétition qui va commencer. Hein,
Par exemple, le Stade Français, on en parlait juste avant. Il y a des commentateurs qui disaient, comme ils n'ont pas leur destin en main, et que si Montpellier gagne, le Stade Français n'est pas qualifié sur les demi-directs, est-ce qu'il valait mieux pas s'économiser? Et de toute façon, il finissait quasiment troisième sûr, et dans ce cas-là, recevoir à domicile pour le quart de finale, parce que ça change tout quand même.
Eric, sur cette première partie, cette première
partie. Moi, je voulais juste revenir sur l'UBB. Effectivement, il s'était dit en interne, juste après la victoire en Coupe d'Europe, que les festivités, en tous les cas au niveau des joueurs, pouvaient leur coûter cher. Ouais. Et ça leur a coûté cher sur le match suivant, sur l'avant-dernier match. Et il est à noter aussi, bien évidemment, que souvent on voit que les derniers matchs, hein, on en parlait juste avant, et on a toujours l'impression que c'est sur ces derniers matchs que les dés ont été lancés, mais pas du tout. L'UBB a perdu trop de matchs à domicile. Et le résultat est là, ils ne sont pas qualifiés pour les play-offs. Et puis la régularité est importante. On en parle très souvent, mais c'est vraiment important de ne jamais rien lâcher et de ne pas se dire on a perdu, ou on a fait des choix, on a mis beaucoup de joueurs au repos. Les points qui ont été laissés en route tout au long de la saison, pour certains, se payent très cher. C'est une lapalissade, mais c'est une vérité qu'il faut garder à l'esprit toujours.
Pierre, tout à l'heure que c'était extrêmement serré, et pour preuve, Toulouse termine premier avec 86 points, derrière Montpellier 82 points, le Stade Français 79, Pau 78, le Racing 74, la Rochelle 72, puis si on descend, ceux qui n'iront pas plus loin, Clermont 71 points, Bordeaux-Bègles 70 points, c'est-à-dire qu'il y a 4 points d'écart entre le 5e et le 8e. 4 points, c'est même pas une victoire bonifiée, enfin c'est rien du tout en termes de rugby. Grégory, Pierre, là-dessus?
Alors, moi je dirais pour comprendre pourquoi l'UBB ne va pas au bout, ils ont fait une très belle saison européenne. Ils ont gagné tous leurs matchs. Voilà. C'est le seul club qui a gagné tous leurs matchs. Ils avaient certains titres à défendre. Ils étaient champions d'Europe en 2025. Donc ils avaient ce titre. Et donc ils ont tout fait. Ils ont à chaque fois mis la meilleure équipe jusqu'au bout. On ne peut pas leur enlever ça. Ce qui a fait la différence peut-être par rapport à, si on doit toujours comparer par rapport au Stade Toulousain, c'est que le banc de touche n'est peut-être pas aussi bien fourni qu'au Stade Toulousain. Et à la décharge du Stade Toulousain, qui a voulu jouer un petit peu sur
les deux tableaux,
les deux équipes, voire les trois équipes, parce qu'ils ont trois équipes seniors du même niveau à peu près. Ils ont joué un peu à Oucha et à la Souris en Coupe d'Europe. Ils ont perdu des matchs en Coupe d'Europe et ils se sont retrouvés un petit peu dos au mur. Ils ne sont pas allés jusqu'au bout. Voilà. Donc, mais dans l'idée. dit. Alors ça veut dire surtout dire que la saison, on l'a assez dit ici, hein, dans le studio, la saison du rugby est très longue, elle est très éprouvante. On parlait aussi du tennis tout à l'heure pour tous les favoris. Je pense que les calendriers des différents championnats nationaux, internationaux, et on en remet une ou une autre couche derrière parce qu'il y a, les médias qui jouent beaucoup. Elle est très longue la saison. Donc, sans compter l'équipe de France, je parle du rugby, l'équipe de France, la Coupe d'Europe, le top 14 qui ne fait pas de cadeau. C'est le plus beau championnat européen ou même mondial qui est d'un niveau très relevé, on le voit, sur les dernières journées. Donc, ceci expliquerait peut-être cela. Parce que Toulouse, ils sont en tête, ils ont géré la saison impeccable. Mais ça veut aussi dire qu'en rugby, ça va être de plus en plus difficile de faire le doublé, c'est-à-dire top 14 et championnat d'Europe.
Et ceci étant, c'est quand même une grosse déception, je suppose, pour l'UBB, parce qu'il y a quelques semaines, sur ce même plateau, Bruno Salvet, je lui posais la question de savoir, entre la Coupe d'Europe et le bouclier de Brennus, qu'est-ce que vous choisissez sans aucune hésitation. Il a dit le Brennus, le bout de bois, le fameux bout de bois. Là, il passe à côté de quelque chose, quand même, l'UBB.
Oui. C'est une grande... Oui, bien sûr. Mais il faut bien... Enfin, à mon avis, c'est ça. Je ne veux pas dire que tous les ans, ils vont jouer la Coupe d'Europe et pas le top 14, mais ils ont perdu, comme l'a dit... Ils ont perdu 4 matchs quand même.
4 matchs à la maison et 3 matchs sur les 5 derniers.
4 matchs à la maison. Et puis alors, c'est le match à Toulon, juste après le sacre de la Coupe d'Europe, où ils ont envoyé une équipe. Et Toulon, qui n'avait vraiment plus rien à perdre, et bon... Ils sont retrouvés un peu surpris d'avoir gagné contre l'UBB.
Grégory, supporter du Stade toulousain, je reviens à cette histoire de Coupe d'Europe et de bouclier de Brennus. Honnêtement, vous êtes plus satisfait que Toulouse termine premier et soit toujours en course pour le Brennus et que malheureusement ça soit mal passé en Coupe d'Europe. Comment est-ce qu'on le vit ça en tant que supporter?
Brennus a plus de prestige quand même. On se souvient des années Noves où il choisissait un peu dans quelle compétition il voulait gagner et il l'a gagné systématiquement. Mais le Brennus est quand même plus prestigieux.
Il est toute récente la Coupe d'Europe.
C'est vrai que la différence, comme disait Pierre, c'est que l'UBB a déjà un titre. Toulouse, comme tu disais tout à l'heure, même s'ils ont fini largement. Ça s'est réduit, mais ils ont dominé le championnat. Pour autant, rien ne leur assure d'être champion de France à l'issue des play-offs. Et qui plus est, on voit que la dynamique de Montpellier, c'est 5 victoires sur les 5 derniers matchs. Et la dynamique de La Rochelle, c'est 5 victoires sur les 5 derniers matchs. Donc ça va être très très ouvert, beaucoup plus ouvert que... Oui, 6 points, j'avais que les 5 derniers, mais donc ça prouve bien que le momentum, comme on dit, la dynamique des uns n'est pas la même dynamique que les autres, même si en termes de points,
c'est ça.
C'est pas le même classement.
Après, pour comparer, parce que j'entendais Ricardo qui chuchote à côté de moi, on pourrait comparer par rapport à la dureté du championnat, le prestige qu'il a, etc., à la Première Ligue ou en foot, les clubs anglais, ils préfèrent gagner leur championnat que la Coupe d'Europe au final.
Oui, mais c'est bien, il nous la laisse la Coupe d'Europe.
On pourrait faire un parallèle comme ça, mais c'est plus prestigieux de gagner le top.
Toulouse avait comme objectif aussi de faire le doublé.
Bien sûr.
J'étais très déçu de ne pas être qualifié pour la finale du championnat d'Europe, c'est vrai, mais bon, après.
Et pourquoi aussi, c'est que, comme tu parlais de l'Angleterre, en foot et en rugby, le top 14, parce que ces championnats sont tellement relevés. Que justement, le prestige, il est bien plus important que pour de gagner ces championnats-là, parce que justement, il y a énormément d'équipes prestigieuses et de très très haut niveau, ce qui n'est pas toujours le cas en Coupe d'Europe.
On va s'intéresser au barrage, parce que ce championnat n'est pas fini. Donc Toulouse, Montpellier sont qualifiés pour la demi-finale, mais il va y avoir deux matchs de barrage à suivre. Il y aura Pau Racing 92 et Stade Français La Rochelle.
Il y a un troisième barrage aussi.
Oui, enfin c'est...
Pour le maintien de l'USAP.
Oui, de l'USAP. Alors. Mais ça, on y viendra après. Pour ceux qui vont encore jouer le titre, pour Racing et Stade Français La Rochelle...
Pour Racing. Pour Racing, avantage, évidemment, ils jouent chez eux, les deux premiers, les troisième et quatrième. Donc avantage à Pau qui est invaincu, hein, à Ouamo, cette saison, invaincu. Mm-hmm. Donc, mais attention au Racing. Racing, c'est l'équipe la plus régulière sur la deuxième partie du championnat. Et ben, ils ont été gagnés à Clermont. Ils ont tapé le Saint-Toulousain le week-end dernier. Mm-hmm. Donc une grosse équipe avec Romain Taufinois, le capitaine. Et donc... ça va valoir le coup. Pau invaincu et le Racing qui n'a rien à perdre. Et puis la deuxième demi-finale.
Stade Français-La Rochelle.
Stade Français-La Rochelle, c'est un remake du dernier match de week-end dernier, puisque La Rochelle avait besoin de points pour se qualifier à la sixième et dernière place. C'est ce qu'ils ont fait. Et puis La Rochelle, c'est quand même la surprise, hein, de cette deuxième partie de championnat, comme l'a dit Eric. Mmh. Depuis la 21e journée, ils sont invaincus.
Mmh. Quand on sait à quel point ils étaient mal.
À domicile et à l'extérieur, donc ils ont engrangé les points. Ne pas oublier que juste avant UBB, champion d'Europe l'année dernière, il y avait, il me semble, Toulouse, mais il y avait aussi La Rochelle qui a été double champion d'Europe consécutivement. Donc ils ont retrouvé un petit peu leur match. Un super Aldrit qui revient bien au niveau. Et puis le Garec, le demi-mêlé, qui vient du Racing d'ailleurs, et qui joue maintenant chez lui en Bretagne, à La Rochelle, vraiment, qui fait une saison fantastique.
Pour Racing aussi, il ne faut pas oublier, la différence, c'est que Pau, sauf erreur de ma part, c'est la première fois depuis des décennies qu'ils accèdent à ce niveau. Mmh. Et du coup, leur effectif n'a pas l'habitude des matchs à élimination directe, contrairement au Racing qui est plus aguerri. Et pour La Rochelle, ce qui leur a fait mal dans la saison aussi, c'est le fait que Antonio ait dû mettre fin à sa carrière prématurément. Et ça, pour tout réorganiser le jeu après, ça n'a pas dû être évident.
À la fin des matchs allés, il me semble que La Rochelle était 12e.
12e, oui, c'est ça. 12 ou 13, oui.
Et là, ils arrivent à se qualifier pour la 6e et dernière place.
On va se lancer au petit jeu des pronostics, messieurs. On va commencer avec vous, monsieur Figuère. Pour Racing.
Racing.
Racing et Stade Français, La Rochelle.
La Rochelle.
La Rochelle.
Voilà.
Et Pierre Forest.
Moi, je donnerai l'avantage aux deux qui reçoivent, donc Pau et Stade Français.
Et Grégory
Je serai sur un duo 100% parisien, Racing et Stade Français.
Bon, je ne vous demande pas, Ricardo, le rugby, ce n'est pas votre truc, même s'il y a des très bons Italiens qui jouent, notamment du côté de Toulouse. On va parler du bas de classement. Montauban jouera en Pro D2, mais ça, on le sait depuis environ 8 mois.
On savait aussi depuis longtemps que l'USAP
serait barragiste. Oui, mais enfin, quand même, en début de saison.
Ils auraient pu descendre. Ça fait quelques mois maintenant que l'écart s'est creusé avec le dernier, avec Montauban, et qu'ils ont préparé plutôt bien. Alors, pas sur ce dernier match, mais je pense qu'ils avaient déjà la tête au barrage, et ça se comprend, mais ils ont fait quand même une deuxième partie de championnat qui était beaucoup plus intéressante. Mmh. On pourrait penser que, parce que ça fait quand même quelques années que malheureusement ils passent par les barrages, donc ils ont, et alors c'est vrai qu'ils ont l'expérience, ça peut énormément jouer, mais on a vu que le match pour le titre en Pro D2 s'est joué à pas grand chose, et que Vannes, il a dominé la saison et qu'il mérite largement évidemment son titre et la montée directe à gagner. Pour autant, Provence Rugby aurait très bien pu faire le coup, comme on dit. Donc ça veut dire que ce match qui va se jouer d'ailleurs sur le terrain de Provence Rugby et pas évidemment à Aimé Giral va être très très ouvert et très difficile. Je suis un petit peu inquiet.
On va retrouver Van donc en top 14 et puis le vainqueur de Provence Rugby Perpignan soit accédera au top 14, soit il restera pour les Perpignanais. Vous suivez un peu la Pro D2 aussi, Pierre?
Évidemment. Très bon championnat.
Ah voilà.
Ah, ouais. Moi, c'est vraiment. Sur ce maintien ou pas pour Perpignan, je serais assez d'avis de mettre Perpignan, favori.
Mais vous dites ça parce qu'il y a Eric à côté
de
vous.
Non, pas du tout, favoris, parce qu'on a, c'est on, sûr, on a, mais on a vu sur la deuxième partie du championnat qu'ils sont bien repris, hein, malgré un peu le trou d'air qu'ils ont mis entre les matchs allés et les matchs retour. Ils ont un nouvel encadrement avec la bite.
Qui est reconduit d'ailleurs. Hein,
qui est reconduit. Ils ont des sponsors qui attendent évidemment. De continuer s'ils se maintiennent. Et puis, on voit l'expérience de Montauban, malheureusement, cette année, qui a fini très tard la saison dernière, qui n'a pas eu le temps de recruter, et puis quand il a fallu recruter, les meilleurs, ils étaient déjà recrutés, ils ont fait le yo-yo toute la saison, et ça serait dommage qu'on ait un top 14 avec je m'avance un petit peu, mais au moins d'avoir une stabilité avec une équipe déjà qui est qui connaît le top 14, en l'occurrence l'USAP, plutôt que...
C'est vrai que si Provence que monte, Provence ça risque d'être même, difficile.
Oui, ça va être le Montauban...
Même s'ils ont un coach qui est Saint-André, Philippe de Saint-André, qui était à la route, mais bon, voilà.
Grégory, sur la Pro D2 et ce barrage Provence Rugby Perpignan.
Non, bah même avis, si c'est pour monter et se prendre des valises tous les week-ends, pour le moral, il vaut mieux rester en Pro D2 et faire un beau championnat que de monter pour monter et derrière tous les week-ends être en galère. Quoi.
Pierre.
D'ailleurs, Van, il remonte alors qu'ils
étaient descendus la saison dernière.
Je ne sais pas si vous avez vu la déclaration après le match de l'entraîneur. Il a dit maintenant, c'est aux dirigeants de jouer. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut donner les moyens pour recruter des joueurs de niveau top 14, point barre. Et voilà, pour
D2. On va fermer cette page rugby pour cette semaine. Un petit mot de 7, bien sûr, évidemment.
En plus, ça se passait en France, à Bordeaux.
Je pensais que vous alliez le garder pour vos coups de cœur.
non, mais c'est surtout la victoire de l'équipe de France masculine, qui a donc qui s'est quand même permis le luxe de sortir l'Australie en quart de finale. Mm-hmm. Ensuite, les Sud-Africains, premier du classement mondial, et puis en finale, les Blacks. Donc, c'est la première victoire depuis le titre olympique aux JO 2024. Voilà. Donc, c'est à souligner.
C'est à souligner.
Et puis, évidemment, chez les filles, moi, je le garderai tout à l'heure
pour le coup de cœur. Voilà. Vous gardez le suspense, un petit peu de teasing. 17h26, on va marquer une pause après cette page rugby. On revient dans un instant, on parlera Formule 1, on parlera cyclisme, un petit peu de football quand même, parce que la Coupe du Monde approche. Et puis, un peu de tennis aussi. Ça vous va, messieurs? Vous restez avec nous?
Oui, un peu de golf, comme d'habitude.
Et un peu de golf, mais ça, je compte sur vous, Eric. À tout de suite.
RRB, la pub. Les élections provinciales approchent et vous souhaitez voter par procuration? La ville de Nouméa simplifie cette démarche pour tous les Nouméens.
Venez vous faire accompagner pour remplir votre demande en ligne sur www.maprocuration.gouv.fr. Vous avez deux options sans rendez-vous.
Déplacez-vous directement à l'hôtel de ville du lundi au vendredi de 7h30 à 16h ou montez à bord du Proxibus. Il se déplace dans les quartiers du lundi au vendredi de 8h à 16h. Rendez-vous sur le site de la ville afin de connaître son emplacement exact.
Pour être sûr de pouvoir voter par procuration, n'attendez pas le dernier moment. Plus d'infos sur www.nouméa.nc ou par téléphone au 27 31 15.
Le tout info continue avec la BCI. Particulier, professionnel, entreprise, avec la BCI, des solutions sur mesure pour construire et accompagner tous vos projets. BCI, ensemble, voir plus loin.
Tout le sport en trois lettres, RRB.
Une semaine sportmédable avec Canal+. Toujours plus de sport, toujours plus d'action, toujours plus d'émotions avec les offres Canal+.
La deuxième partie d'une semaine sportmédable avec nos invités Eric Figuer, Pierre Forest, Grégory Sirg et Ricardo Baroni. Grégory, je me tourne vers vous parce qu'on va parler Formule 1 avec le Grand Prix de Monaco qui est qualifié du Grand Prix le plus glamour de la saison. C'est toujours un moment d'anthologie Monaco. La victoire de Kimi Antonelli, le jeune pilote Mercedes qui s'est imposé devant la Ferrari de Lewis Hamilton et la Red Bull d'Isaac Hadjar au classement général du championnat du monde. Kimi Antonelli est largement en tête devant Lewis Hamilton et George Russell. Et au classement constructeur, Mercedes devance Ferrari et McLaren. De plus en plus impressionnant, Kimi Antonelli, Grégory. Il est énorme, ce garçon.
C'est ça, c'est ce qu'on disait pendant
Il a 19 ans.
Il a 19 ans et ce qu'on disait pendant la coupure pub, c'est que c'est la troisième fois de suite qu'il fait le meilleur temps en qualif, qui fait le meilleur temps au tour en course et qui gagne la course. À seulement 19 ans, j'ai regardé pour les stats, ça le place à l'égal de Niki Lauda, quoi. Juste Non, après, ça présume pas de la suite de sa saison, mais il est juste impressionnant, quoi.
Et cinquième victoire de suite.
Cinquième victoire de suite. Et s'il n'y avait pas eu autant de voitures de sécurité, de redépart à la fin, il aurait mis un tour au deuxième, quoi. Ouais, puisqu'il avait déjà rattrapé le troisième, il lui avait mis un tour. Je ne sais pas si on se rend compte.
66 points d'avance sur le deuxième, en classement général.
Et rien qu'au 12e tour de course, il avait déjà mis un tour à la moitié des autres pilotes. C'est juste hallucinant.
Et d'où ça vient que ce garçon il a été touché par le doigt de Dieu ou enfin voilà, non mais on le voit apparaître comme ça. C'est sa deuxième saison en Formule 1.
C'est seulement sa deuxième saison et sur les trajectoires qu'il prend et tout, on sent qu'il a moins peur que d'autres, surtout dans un circuit comme Monaco où la moindre erreur à Spike Cash, et on l'a vu avec Stroll et Leclerc, mais non, il est juste, voilà, il a la vitesse et il n'a pas la peur de prendre des risques.
Ricardo Baroni, Kimi Antonelli en tête du championnat du monde de Formule 1, qu'est-ce que ça évoque pour l'Italien que vous êtes ?
Ben, on est bien contents. Ben, hein, ça nous cache un peu cette Coupe du Monde qui approche, quoi. Et donc, ça fait plaisir, surtout de voir qu'il y a d'autres grands sportifs italiens qui le supportent, comme Sinner, comme certains joueurs de football. Donc, il y a un engouement derrière ce pilote, ce jeune pilote. C'est pour ça que j'ai vu une déclaration à l'arrivée de Toto Wolff qui disait « J'espère que les Italiens vont le laisser tranquille parce que l'engouement latin et tout pour Kimi Antonelli, ça ne va pas être évident pour lui quand il va retourner chez lui. »
Juste pour un peu expliquer les choses, ça représente quoi la Formule 1 en Italie ? Au-delà de Ferrari, c'est vraiment un truc exceptionnel ?
Ben oui,
c'est comme le football, c'est ça. C'est aussi religieux, j'allais dire, entre guillemets, que le
d'abord
football.
D'abord le football et après la Formule 1. Ouais. La Formule 1, en Italie, on a toujours eu de grands pilotes, on a de très bonnes voitures, Ferrari, qui est un mythe hein, dans le monde entier. Mm-hmm. Donc c'est vrai que moi, j'aime bien regarder, c'est que quand vous allez au restaurant le dimanche, vous avez ceux qui regardent sur leur téléphone ou tablette le match de foot ou la Formule 1, ouais. L'un des sports.
Grégory, excellente deuxième place de Lewis Hamilton, qui revient un peu du Diable Vauvert. Il avait des problèmes un peu avec sa voiture l'an dernier, puis là ça a l'air de matcher
l'an
un peu
dernier,
plus.
Il avait plus que des problèmes, puisqu'on en a longuement parlé, mais dans chacune de ses déclarations, il était quasiment dépressif, et là il revit. Donc tant mieux, après il a une voiture performante, l'an dernier c'était pas le cas. Et il se permet même le luxe d'être devant son coéquipier. Donc ça, pour le moral, ça peut faire que du bien. Parce que même si on parle de championnat constructeur, donc avec une équipe, ça reste quand même un sport individuel. Donc,
Alors, ça va bien pour Lewis Hamilton. Ricardo, vous voulez...
Oui, ce que j'ai de la difficulté à comprendre, c'est que l'année dernière, c'était le contraire. Leclerc qui était performant et Lewis Hamilton presque dépressif, comme dirait. Et cette année, on voit après l'arrivée du Grand Prix de Monaco, c'est exactement le contraire.
Ouais, la dépression a changé de camp.
Et Leclerc rouspète après ses freins, etc. Oui. Donc, ce que je voulais demander, est-ce qu'il y a deux voitures ou est-ce que c'est la même voiture et conduite différemment ?
Théoriquement, c'est censé être la même voiture. Après, chaque pilote la règle différemment. Là, par exemple, on parlait des freins. Leclerc s'en est plaint pendant toute la course. Et il s'avère que la Ferrari avait amené un pack de freins différent pour ce Grand Prix et l'avait proposé aux deux pilotes. Et il y a un seul des deux pilotes qui en a bien voulu, c'est Lewis Hamilton. Et Leclerc a dit qu'il ne voulait pas prendre le risque de changer de système de frein. Bah, il aurait peut-être dû, du coup.
Surtout qu'il était extrêmement en colère cette nuit à l'issue de la course. Il retenait ses mots parce que...
Il était tellement en colère que le fabricant des freins, c'est quand même assez rare pour le noter, a carrément fait un communiqué pour dire qu'il fallait attendre et pas faire de telles déclarations dans la presse.
Alors que le fabricant de freins, personne ne le connaît. Enfin, quasiment.
Et ça fait 50 ans qu'il fabrique des freins, apparemment. Je ne savais même pas leur existence. Mais non, ils ont carrément fait un communiqué pour dire à tout le monde de redescendre en pression et d'attendre les analyses de data. Quoi.
La troisième place pour Isaac Hadjar. Alors, ça a été franchement compliqué. Il revient de très très loin, le jeune Français. Mais bon, c'est un podium, c'est toujours ça de prix.
Et il bénéficie de fait de course aussi.
Troisième sur la piste.
Oui, c'est ça. Bah oui. C'est Pierre Gasly qui finit troisième, qui a eu la chance de faire tout le tour d'honneur en hurlant dans son micro.
Pour une vitesse dans les stands de 80,1 km/h.
60, pas.
60,1.
C'est ça. Et pour l'explication, c'est parce qu'il rentre selon un certain angle. Qui fait que la vitesse qui est calculée dans les stands, elle était trop rapide de 0,1 km/h.
Ceci étant, il y a eu une tripotée de pilotes qui se sont fait choper au radar à l'entrée des stands. Ça a été l'hécatombe pour pas mal de pilotes.
Il y a eu 5 pilotes, oui, c'est assez rare quand même. Je crois que c'était la première fois que je voyais ça, moi. Et en fait, c'est la façon de l'angle dont il rentrait dans la ligne des stands qui faisait... qui avait cet écart de vitesse mesuré. Quoi.
Avec notamment George Russell qui, lui, a été pénalisé, mais qui est rentré au stand, qui a pas payé sa pénalité.
Non,
bah, donc
de toute façon, comme il jouait pas la gagne, c'était pas trop grave pour lui de prendre. À noter pour Isaac Hadjar, par contre, un fait que j'ai trouvé un peu négatif, et ça fait quelques grands prix, dès qu'il est sous pression, il a tendance à utiliser son micro tout le temps, ouais, et pas pour parler de manière très agréable à son équipe. Faut pas qu'il oublie que s'il n'y a pas l'équipe derrière lui, lui, il n'est pas dans la Formule 1 non plus. Donc, surtout que lors de la séance d'essai libre, il avait crashé sa voiture, les autres ont travaillé toute la nuit pour lui remonter, et voilà le remerciement derrière.
Le tempérament, c'est nécessaire, Eric, pour gagner des courses, mais il ne faut pas que ça soit à un moment donné que ça desserve le pilote.
Un mot aussi sur Max Verstappen, qui aura fait à peu près 3,50 m dans cette course. Bon, c'est toujours ça de prix, hein, à Monaco, moi je ferais bien 3,50 m en Formule 1.
Qui a eu l'intelligence de se mettre sur le côté pour ne pas
plomber excellent le départ réflexe, de tout le monde non plus. Exactement. Mais ça va plus du tout chez. Il est dépressif aussi.
Non. Là, il est pareil. Il a pas compris ce qui se passait non plus. Bon, là, pour le coup, c'est vraiment la voiture parce que c'est pas un fait de pilotage. Mais à côté de ça, son coéquipier finit troisième, donc c'est compliqué de juger la performance de la voiture sur le coup. Surtout que, de ce que j'ai lu dans la semaine, le moteur qui a été sorti par Red Bull serait le meilleur du plateau et les autres s'en servent de maître étalon pour s'aligner, quoi. Donc c'est un peu compliqué à comprendre, quoi.
Kimi Antonelli, alors la saison est encore longue, mais il pourrait devenir champion du monde cette saison, ou ça va être encore un petit peu trop juste et que dans la tête à 19 ans il y a un moment où ça risque de coincer un peu?
La saison est encore là. Non, après, je peux faire une réponse de Normand et dire...
Oui, mais comme vous êtes Toulousain, vous n'allez pas le faire.
Il va tout gagner parce qu'avec la jeunesse, il a la fougue. Mais en même temps, la jeunesse, à la fin, quand il faudra... On l'a vu avec Norris, qui avait presque peur d'être champion du monde, où il se crachait à des endroits où il ne l'aurait jamais fait. Donc, c'est très difficile à ce stade de dire quelque chose.
Il peut se passer effectivement n'importe quoi. La saison est encore trop longue pour s'avancer. Mais néanmoins, quand à 19 ans, pour sa deuxième saison, on gagne les 5 Grands Prix consécutifs, et notamment le dernier à Monaco, dans les circonstances qui ont eu lieu, il n'y a absolument pas de raison, même si des raisons, il en existe en réalité plein. Des accidents, des baisses de régime, etc. Mais il a montré que la pression, ça ne lui faisait pas peur. Même si, à un moment donné, comme on dit, la peur de gagner peut le rattraper un peu, mais enfin, s'il continue à augmenter son avance, même s'il a un petit peu peur sur les derniers Grands Prix, il est quand même très très bien parti.
Et le prochain Grand Prix, c'est...
Barcelone, dès ce week-end.
Dès le week-end prochain, on va s'amuser. Ricardo, je me tourne vers vous, c'est votre moment de gloire. Le cyclisme avec le Dauphiné, qui s'appelle plus le Dauphiné, mais le Tour Auvergne-Rhône-Alpes. Donc maintenant, quand
c'est bien dommage d'ailleurs.
Quand vous cherchez sur Internet, vous tapez Dauphiné parce que vous êtes un vieux. Enfin voilà. Et ben non, ça n'existe plus. Ça a commencé ce week-end et c'est le grand retour de Paul Success.
Ben, comme Antonelli, on continue dans les 19 ans.
C'est ça.
On continue dans les 19 ans. Ouais. Donc. Oui, c'est la grande curiosité au niveau du cycliste, c'est le retour de Paul Sexas sur cette course, parce qu'il va avoir vraiment de la concurrence. Il a fait un énorme stage à Sierra Nevada avant de venir, et pour lui, ça fait partie d'un de ses objectifs, puisqu'il est de la région, et il tient absolument à gagner cette course. Donc il a autour de lui l'équipe qui normalement va être avec lui sur le Tour de France. Et il a deux concurrents qui sont, d'après moi, pas la même chose, mais qui sont d'un excellent niveau. C'est Juan Ayuso et Isaac Del Toro. Isaac Del Toro, ben lui, il faut qu'il absolument il se montre, pour la simple raison que sur le Tour de France, il sera l'équipier de Pogacar, tandis qu'Ayuso est le leader de son équipe sur cette course que je nommerai Dauphiné quand même.
Oui, allons-y.
Et donc, il reste leader sur cette course et il sera aussi leader sur le Tour de France. Donc, la gestion de cette course par étapes est assez particulière.
Avant le Tour de France, quelle est la course entre le Dauphiné, on va continuer de l'appeler comme ça, et le Paris-Nice qui aura lieu dans quelques temps. C'est quelle course qui permet de mieux s'acclimater au Tour de France qui suit ?
Ben, y en a qui aiment bien le Tour de France parce que ça leur permet de voir un peu au niveau alimentation ce genre de choses comment c'est en France. Et il y en a d'autres qui se dirigent sur le Tour de Suisse pour différentes raisons qui ont lieu à peu près en même temps. Il y en a beaucoup qui aiment bien aller sur le Dauphiné parce que souvent les concurrents du Dauphiné qui seront présents dans les meilleurs seront aussi les meilleurs sur le Tour de France. Donc ça permet de faire un petit peu un étalonnage, on va dire, des concurrents qu'on aura sur le Tour de France. Surtout que le Dauphiné, cette année, a fait quelque chose d'exceptionnel. C'est qu'ils ont fait, pas cette nuit, mais la nuit prochaine, un contre-la-montre assez particulier. Mm-hmm. C'est un contre-la-montre où, par équipe, où ils partent tous ensemble. Et le temps est en fonction de votre arrivée sur la ligne. Donc ça va faire, on roule à fond à 10, on n'est plus que 9, plus que 8, voilà. Et pourquoi ils ont fait ça? C'est que la première étape à Barcelone du Tour de France, c'est exactement le même style de course. Donc beaucoup d'équipes ont voulu aller sur le Dauphiné pour commencer à faire des tests sur comment se comporter dans cette compétition assez particulière.
Et ça, ça sera à suivre non pas cette nuit, parce que cette nuit, il y a étape de 234,3 km entre Saint-Martin-le-Vinoux et le Puy-en-Velay, et très belle ville de la Haute-Loire. Et donc ce fameux contre-la-montre, ça sera dans deux nuits.
Qui est assez particulier, donc ça mérite d'être vu.
Paul Seixas, il a une chance de s'imposer sur ce Dauphiné, ou il n'est pas là pour ça? Il est là pour faire un peu de jus.
Ce qui serait bien de savoir, c'est à quel niveau il est de sa condition physique. Mmh. Parce qu'il peut être à 100% et faire le Tour de France pour apprendre, comme il peut être à 80% pour après être à 100% sur le Tour de France. Le problème dans l'équipe à Paul Seixas, c'est qu'il est parti avec certains coureurs se préparer à Sierra Nevada, et qu'il y a un coureur qui s'appelle Olaf Coy, qui est un très bon sprinter et qui a été engagé exprès pour ça chez Decathlon CMA CGM pour le Tour de France, pour ramener le maillot vert à l'arrivée du Tour de France. Donc quel va être le choix de l'équipe? Donc il est clair que si Paul Seixas arrive, on va dire, sur le podium du Dauphiné, je pense que les organisateurs, on va dire, peut-être pas les organisateurs de l'équipe, mais le staff va peut-être plutôt choisir Paul Seixas que Olaf Coy. Tandis que Olaf Coy reste quelque chose d'important pour eux de quand même ramener le maillot vert, et il a de fortes chances de ramener le maillot vert à Paris.
Paul Seixas, qui à l'issue de la première étape est 17e au général, à 44 secondes du leader qui est un Français, Alex Baudin. On va, avant de passer rapidement à vos coups de cœur et vos coups de griffe, si vous avez des coups de griffe, parler tennis, victoire d'Alexander Zverev à Roland-Garros. Enfin, je crois que c'est le mot qu'on peut utiliser.
C'était maintenant ou jamais. Voilà, c'était l'occasion ou jamais de remporter cette victoire, et il l'a réussi. C'était pas facile pour lui, même s'il était quand même globalement favori, mais c'était vraiment le moment ou jamais, et ça, c'est pas facile à gérer quand on est un sportif de ce niveau-là, et quand on passe pour lui à côté de certaines victoires.
Et puis chez les dames, victoire de la Russe Andreeva, qui s'est imposée face à
19
cette
ans
jeune
aussi.
Oui, c'est ça, voilà, c'est la semaine des 19 ans. Petit mot de football. On va faire vite parce que Ricardo est là. La Coupe du Monde approche. L'équipe de France s'est inclinée. S'est inclinée contre la Côte d'Ivoire la semaine dernière. Demain matin, France-Irlande du Nord. Ça veut dire grand-chose, Eric?
Ça veut dire grand-chose. Si on perd les matchs et qu'on n'accumule pas de la confiance, ça veut dire grand-chose. Alors après, évidemment, on peut perdre des deux matchs de préparation et faire une très belle Coupe du Monde. On peut les gagner et faire une Coupe du Monde décevante. Il n'y a pas de règle. Maintenant, il est toujours mieux quand même de pouvoir accumuler un peu de confiance. Est bien joué. Le premier match contre la Côte d'Ivoire, c'était un peu particulier. Les joueurs du Paris Saint-Germain ne jouaient pas. Saliba n'était pas non plus là en défense centrale. Tous ces joueurs-là vont rentrer. On y verra un petit peu plus clair demain. Mais ce serait important qu'il se passe quand même un petit quelque chose demain, sachant que le groupe de la France est tout sauf facile et qu'il va falloir s'employer pour se qualifier pour le tour suivant.
Grégory, rapidement.
J'ai souvenir des matchs de préparation avant la Coupe du Monde 2018 qui étaient peu glorieux. S'il y a le même résultat à la fin, je signe tout de suite.
Oui, mais pour l'instant, on n'en sait rien. Et donc,
On termine, messieurs, en une petite minute par vos coups de cœur et coups de griffe. Ricardo.
Je commence par mon coup de cœur, vu qu'on me chambre sur la Coupe du Monde de football, n'est-ce pas ?
Et qui aime bien châtie bien, Ricardo, vous savez.
Mon coup de cœur, c'est l'équipe U17 d'Italie qui a gagné les championnats d'Europe, les championnats d'Europe à la PSG, puisqu'ils perdaient 1-0 à très peu de minutes de la fin. Ils ont égalisé et ils ont gagné au pénalty. Donc, ça nous laisse espérer, à nous les Italiens, quelque chose de sympa pour le futur.
Forza Italia, alors.
Grazie.
Grégory.
Un petit cagorico pour Susanne Wojcicka, qui a été championne d'Europe de handball avec son club. Et c'est la première fois dans l'histoire du club qui a remporté cette compétition. Donc, bravo à elle.
Pierre.
Je vais rester dans le rugby, évidemment. Ouais. Nike Cogny. Marie Marraine, hein, licenciée au RCC, club cher à notre ami Thierry, hein, donc, et puis qui est en équipe de France, qui a fait une très belle saison à 7 et qui a été donc nommée meilleure jeune révélation de l'année. Chapeau pour elle.
Éric Figuère.
Je vais parler des joueuses de Metz, donc c'est fait. Bravo à elle. Voilà. Nelly Korda, la golfeuse américaine qui gagne l'US Open ce matin. Voilà, donc c'est à signaler. Et puis l'équipe de Tina, bien évidemment, l'équipe de golf
évidemment,
de Tina,
qui
revient de France, qui s'est brillamment comportée, qui a fini deuxième des qualifications, qui malheureusement échoue de rien du tout pour l'accession à la deuxième division. Donc ce n'est que partie remise. Mais les garçons se sont vraiment, vraiment très, très bien comportés. On fait une très belle semaine.
Et on les salue tous. Merci messieurs d'avoir été avec nous.